Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Là-bas, en Éthiopie, est une sombre idole. Haïlé Sélassié, Négus, roi des rois, descendant de Moïse, ce qu'en croit. Certains, quant à moi, je les crois sur parole. Esclaves le protègent sous de noirs parasols du ciel blanc d'Addis Abeba. À ses pieds, un lionceau, emblème de Judas, symbole.
Je prie l'Assemblée de m'excuser si je n'exprime pas en français. Comme je l'aurais voulu, je dirais mieux toute ma pensée avec toute la force de mon esprit et de mon cœur en parlant en amharique.
Dja Dja. Oh, Dja Rastafari. Chanté par Gainsbourg ou Bob Marley, celui qu'on appelait le roi des rois ou le lion de Judée était un tout petit bonhomme d'1m57. Dernier empereur d'Éthiopie, il régna sur le pays pendant près de 44 ans, de 1930 à 1974. Tout en étant considéré comme le seul dirigeant légitime de la terre, selon les Rastas. Titre honorifique, mythique, Negusa Nagast, ou tout simplement le Négus. Haïlé Sélassié, né Tafari Makonnen, fils d'Uras, ou gouverneur du Harar, orphelin à 14 ans, confié aux bons soins de Ménélik II. Mais quels furent sur le trône les coutumes et les us d'un tel Gugus, reconnu pour avoir été à la fois démago-despote, passablement sourd à la misère de son peuple, et par certains côtés, monarque éclairé. Pour le savoir, nous allons nous plonger dans le Négus, récit, côté court, des dernières années d'un règne ubuesque, d'après l'enquête du journaliste polonais Richard Kapuzinski, l'Albert Londres de Varsovie, publié en 1978. Une parabole sur l'absurdité du pouvoir absolu, aux frontières du journalisme, qui alterne les monologues d'obséquieux chambellans d'opérettes, la montée des révoltes, la chute d'une divinité, et les impressions du reporter lui-même, fruit de 4 séjours en Éthiopie entre 1975 et 1977. Bonjour à toutes et à tous, c'est Richard Guettet. Bienvenue dans la Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova que vous retrouvez chaque dimanche de 12h à 13h. Pour vous raconter cette fresque sur l'art antique de gouverner, une musique originale a été composée et sera interprétée en live aujourd'hui par Samuel Hirsch et Fabien Girard, deux hauts dignitaires de ce redouté groupuscule d'Ethio Jazz, Arad Kilo, qui m'ont accompagné jusqu'ici, à Brest, dans les halles de l'atelier des Capucins, pour une émission en deux parties, enregistrée en public spécialement pour Longueur d'onde, ce précieux festival de la radio et de l'écoute. Excusez-moi, sommes-nous en public ? Est-ce qu'il y a des Rastas dans la salle ? Le Négus de Richard Kapuzinski, seconde partie, l'effondrement.
Depuis hier, La radio éthiopienne émet sans discontinuer des programmes de musique militaire coupés de proclamations et de communiqués émanant du nouveau gouvernement. Les émissions de la radiodiffusion d'Addis Abeba en langue amharique, arabe, somalie et anglaise se livrent à une critique extrêmement acerbe du régime de l'empereur Haïlé Sélassié, assurant que de jeunes Éthiopiens meurent de faim dans les rues. C'est la peur, disait il y a quelques instants encore un commentateur de la radio du nouveau gouvernement, c'est la peur qui nous a empêchés jusqu'ici de secouer le joug impérial. Nous n'avons ni liberté d'expression, ni liberté de presse. Le pouvoir était entre les mains d'un seul.
Cher ami, jetez un œil à l'autobiographie que l'empereur dicta au crépuscule de son existence, intitulée « Ma vie et les progrès de l'Éthiopie ». Vous serez convaincu de l'efficacité déployée par sa vaillante majesté pour lutter contre la barbarie et l'obscurantisme régnant dans le pays. Tenez, Sa Majesté raconte qu'au début de sa carrière monarchique, elle a interdit de couper les mains et les jambes, châtiment qui, avant son avènement, était appliqué même pour des délits mineurs. Elle écrit ensuite avoir mis un terme à la coutume selon laquelle un homme accusé de crime, l'accusation pouvait être prononcée par n'importe qui, car à l'époque les tribunaux n'existaient pas, un homme accusé de crime était mis à mort en public par éviscération, et l'exécution devait être réalisée par un membre de sa famille. Un fils pouvait mettre à mort son père, une mère son fils. Sa Majesté a remplacé cette coutume par une institution de bourreau d'État en fixant le lieu de l'exécution et en ordonnant l'utilisation de l'arme à feu. Ensuite, Sa Majesté achète les deux premières imprimeries et paraît le premier journal de l'histoire du pays. Ensuite, elle ouvre la première banque. Ensuite, elle introduit la lumière électrique, d'abord au palais, puis dans d'autres bâtiments. Ensuite, elle condamne le trafic d'esclaves et fixe la liquidation de ce commerce aux environs de 1950. Ensuite, elle abolit la coutume appelée les bachas. Des guérisseurs faisaient manger des herbes magiques à de petits garçons qui se laissaient diriger par une force surnaturelle et entraient dans une maison pour démasquer un voleur à qui les pieds et les mains étaient coupés. Imaginez-vous un peu la vie dans un pays où du jour au lendemain, en toute innocence, vous marchez dans la rue quand un gosse drogué vous attrape par le pied et la foule se met aussitôt à l'arracher, ce pied. Ou alors vous êtes tranquillement à la maison, à table, quand un gamin ivre fait irruption chez vous. Vous êtes traîné dans la cour et amputé de vos deux pieds et de vos deux mains. Sa Majesté met en place réforme sur réforme. Elle abolit le travail obligatoire, importe les premières automobiles, crée la poste. Elle maintient certes le châtiment de la flagellation dans les lieux publics, mais condamne la farsata, La farsata, quand un crime était commis, toute la population du village était affamée par les forces de l'ordre jusqu'à ce que le coupable soit désigné. Chacun craignait d'être déclaré coupable et crispés les uns sur les autres, les gens finissaient tous par crever de faim. Mais hélas, guidé par sa soif de développement, sa magnanime altesse commit une imprudence. En effet, comme il n'y avait ni école publique, ni université dans notre pays, l'empereur décida d'envoyer de jeunes gens à l'étranger afin qu'ils s'y instruisent, en choisissant personnellement ces jeunes parmi des familles nobles et loyales. Mais par la suite, il y eut une telle bousculade pour partir à l'étranger que sa bienveillante majesté perdit peu à peu le contrôle de cette mode qui ensorcelait la jeunesse. Les blancs-becs, partis étudier en Europe ou en Amérique, étaient effectivement de plus en plus nombreux. Les soucis ne tardèrent pas à surgir. Tel un sorcier, sa majesté avait engendré une force maléfique et destructrice en autorisant la comparaison avec l'extérieur. Les jeunes morveux revenaient au pays, la tête bourrée d'idées subversives, de théories déloyales, de pensées nuisibles, de projets déraisonnables et perturbateurs. Des critiques choquantes, des remises en question. Preuve supplémentaire de l'ingratitude de la jeunesse. On peut imaginer l'amertume de ces calomniateurs. L'amertume que ces calomniateurs firent éclore dans le cœur de notre monarque. Le pire, c'est que ces blancs-becs, farcis d'idées saugrenues, étrangères à nos coutumes, créèrent un climat de trouble. Un climat de trouble. Un climat de trouble. Un climat de trouble.
En 1968, la province de Gojam fut le théâtre d'un terrible malheur. Les paysans sautèrent à la gorge des autorités. Heureusement, la province insurgée se trouvait loin de la capitale. Il était donc possible de la faire encercler par l'armée, d'ouvrir le feu, d'écraser la rébellion dans le sang. Mais avant d'en arriver là, une peur immense s'empara du palais, car on ne sait jamais jusqu'où un volcan en éruption peut cracher ses coulées de lave. C'est pourquoi sa sagace majesté, voyant à quel point l'Empire chancelait, commença par envoyer des forces de répression pour couper la tête aux paysans. Puis, face à la résistance incompréhensible des insurgés, elle ordonna l'annulation du nouvel impôt qui faisait scandale et blâma le ministère concerné. Dans la capitale, les étudiants manifestaient, chantaient les louanges des rebelles, montraient du doigt la cour.
Déjà, en 1960, l'un des hommes les plus proches du pouvoir, le commandant de la garde impériale, alla à l'université et présenta à l'empereur une divinité, un être surnaturel, comme un homme qui tolérait la corruption au palais, défendait un système archaïque et qui fermait les yeux sur la misère de millions de sujets. À partir de ce jour, la lutte commença et l'université ne connut plus la paix. Ce conflit tumultueux, qui dura près de 14 ans, engloutissant des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de victimes, se termina par la destitution de l'empereur. À cette époque, il existait deux images de Haïlé Sélassié. La première, celle de l'opinion internationale, était celle d'un monarque exotique mais efficace, doué d'une énergie inépuisable, d'un esprit vif et d'une sensibilité profonde, qui avait tenu tête à Mussolini, puis avait récupéré son empire et son trône. La seconde présentait Sélassié comme un immense démagogue paternaliste, doué du sens du spectacle, qui par ses gestes et ses mots masquait la vénalité, la stupidité et la servilité de l'élite. Ces deux images étaient du reste également vraies. Le poignard et le poison donnaient lieu d'élections. Les exécutions et le gibet remplaçaient le débat. Mais en même temps, l'empereur comprenait que son pays se trouvait dans une impasse coupée du monde moderne. Il ne pouvait pas changer le système qui le maintenait au pouvoir. Or, le pouvoir était ce qui comptait le plus pour lui. C'était un personnage très sympathique, un homme politique perspicace, un père tragique, un avare pathologique. Il condamnait à mort les innocents, graciait les coupables. Caprice, ambiguïté, ténèbres impénétrables.
Des étudiants rebelles revinrent du Nord avec des photographies et des récits abominables sur la population qui mourait de faim, ce qu'ils racontèrent par derrière, en catimini, aux correspondants étrangers. Scandale, il n'était plus possible de nier la famine. Des avions chargés de blé, des navires bourrés de farine et de sucre arrivèrent dans le pays. On vit aussi débarquer des médecins, des missionnaires, des délégués d'organisations humanitaires, des étudiants d'universités étrangères, ainsi que des correspondants déguisés en infirmiers. Cette foule submergea le nord du pays, mais aussi l'ouest, où des rumeurs circulaient sur des tribus entières décimées par la faim. L'Empire fut pris dans un tourbillon international. Je dois avouer que cette effervescence ne suscitait pas une immense satisfaction au palais, car il n'est jamais bon de laisser entrer tant d'étrangers chez soi. Ils se mêlent de tout, et en plus, ils critiquent tout. Infirmiers et missionnaires se mirent à faire un raffut infernal à propos du transport de farine et de sucre qui, prétendaient-ils, n'arrivait pas jusqu'aux populations affamées. L'aide humanitaire était subtilisée en cours de route. Ils se mirent alors à fourrer leur nez partout et il apparut que des spéculateurs avaient détourné des cargaisons entières, qu'ils avaient fait monter les prix et s'en étaient mis plein les poches. Nos étudiants s'insurgèrent. « Honte, infamie !» hurlaient-ils en proclamant la mort de l'Empire.
La police matraquait, la police arrêtait, agitation, effervescence, une rumeur se mit à circuler selon laquelle la famine aurait déjà provoqué la mort d'un demi-million de personnes. Au passage du cortège impérial, les sujets de Sa Majesté se prosternaient front contre terre, et comment ? Mais cela n'avait rien à voir avec les prosternations d'antan. Jadis, mon ami, on s'étalait à plat ventre, à en perte de conscience. Le visage dans la poussière, on se roulait dans la boue, on tremblait, on frémissait au sol. Tout le bas peuple s'anéantissait, tendait les mains, implorait la pitié. Alors que là, les gens certes tombaient, mais leur chute était sans vie, endormie, contrainte, mécanique. Ils tombaient pour avoir la paix, lentement, paresseusement. Bref, ils tombaient à contre-cœur, malgré eux, en faisant la grimace. Mais intérieurement, ils restaient debout. Ils étaient couchés, mais en pensée, ils restaient assis. Ils étaient humbles et soumis, mais au fond, leur cœur se rebellait. Personne, toutefois, n'y prêta attention dans la suite impériale.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Public adoré. On retourne à Brest au festival Longueur d'onde pour la suite de cette lecture publique du Négus, l'enquête du journaliste polonais Richard Kapuscinski sur Haile Selassie, dernier empereur d'Éthiopie et représentant de Dieu sur Terre selon les Rastas. Je suis accompagné pour l'occasion par Samuel Hirsch et Fabien Girard du groupe Arad Kilo qui interprètent en live une musique originale spécialement composée pour l'occasion. Voici venue l'heure de la chute.
Qui pouvait alors prévoir que cette année 1974 serait la dernière ? Il avait suffi que le ministre du Commerce augmente le prix de l'essence pour que les taxis se mettent en grève. Le lendemain, ce fut au tour des instituteurs. En même temps, les lycéens sortirent dans la rue, attaquèrent et brûlèrent les autobus. La police tenta de dompter ces gamineries, attrapa 5 lycéens et... pour s'amuser, leur fit dévaler une pente raide en leur tirant dessus. 3 gamins furent tués, 2 grièvement blessés. Vint le jour du jugement. Confusion, désespoir, insultes, pour soutenir les lycéens, les étudiants organisèrent une manifestation. Au lieu de se consacrer assidûment et avec reconnaissance à leurs études, ces jeunes gens ne pensaient qu'à fourrer leur nez partout et à tout saboter. Ils se dirigèrent tout droit vers le palais. La police matraqua, ouvrit le feu, procéda à des arrestations, lança les chiens, mais rien n'y fit. C'est à ce moment-là que son aimable majesté ordonna de renoncer à l'augmentation du prix de l'essence afin de calmer les esprits.
Tout le monde manifestait. Les étudiants, les ouvriers, les musulmans, tous revendiquaient leurs droits, faisaient la grève, organisaient des meetings, insultaient le gouvernement. Notre armée tout entière était dressée contre le pouvoir, exigeait une augmentation. Seule la garde impériale lui conservait sa loyauté. Insolente anarchie, la cour étouffait, suffoquait. Plus personne ne faisait plus rien, à part traîner dans les galeries, se réunir dans les salons, comploter en douce et maudire le peuple. 3 factions se formèrent au sein du palais. La première faction était la faction des geôliers, une coterie farouche et inflexible qui revendiquait la restauration de l'ordre et l'incarcération des insurgés, la matraque et le gibet. Cette faction était menée par la fille de l'empereur, Ténéné Work, une dame sexagénaire, une furie, une teigne, qui reprochait constamment sa bonté à sa vénérable majesté. La deuxième faction regroupait les négociateurs, des libéraux, faibles mais philosophes, qui jugeaient indispensable de convier les révolutionnaires autour d'une table et de discuter, d'écouter leurs arguments afin de réformer l'Empire. Cette faction était dominée par le prince Michael Imrou, un esprit ouvert, une nature encline aux concessions, un homme ayant beaucoup voyagé et connaissant bien les pays développés. Enfin, la troisième faction regroupait les fluctuants, les plus nombreux au palais. Ceux-ci ne pensaient rien, mais pareils à des bouchons de liège flottant sur l'eau, ils se laissaient porter par les événements dans l'espoir que les circonstances les feraient arriver à bon port. L'empereur, lui, se levait de plus en plus difficilement. Il dormait mal ou ne dormait pas. Il somnolait toute la journée en restant sans rien dire, ou presque, et ne s'animait qu'à l'heure des dénonciations. Sa vénérable majesté les écoutait, mais ne donnait plus aucune consigne. Au lieu d'ordonner des arrestations et des pendaisons, son exceptionnelle majesté se promenait dans le jardin, nourrissait les panthères, jetait des graines aux oiseaux.
Malgré ses 80 ans, les journées de l'empereur tiennent du marathon. Ses rares moments de détente, il les passe en compagnie de ses animaux.
À la mi-avril, alors que la rue était en proie à une agitation permanente, Sa Majesté fit préparer une cérémonie de succession. Extrêmement ému, la voix brisée et faible, à peine audible, Sa très gracieuse Majesté déclara que, vu son âge avancé et l'appel de plus en plus pressant du Seigneur, elle souhaitait qu'après son pieux décès, son petit-fils, Zera Jacob, lui succéda sur le trône. À cette époque, ce jeune homme de 20 ans faisait ses études à Oxford, où il venait d'être envoyé à cause de sa vie licencieuse. Les vieux dignitaires et les vénérables membres de la couronne royale se mirent à murmurer que jamais il n'obéirait à un pareil morveux. L'armée fit irruption dans la ville, arrêta en pleine nuit tous les ministres et enferma le premier ministre ainsi que 200 généraux.
Sa Majesté convoqua ses conseillers et les blâma de négliger le développement. Après une terrible semonce, elle déclara que nous allions construire des barrages sur le Nil. Mais comment pouvions-nous construire des barrages, grommelaient en leur fort intérieur les conseillers abasourdis, quand les hommes crèvent de faim dans les provinces? L'empereur répondit en substance que si on construisait des barrages, on pourrait irriguer les champs et enrayer la famine grâce à l'abondance des récoltes. D'accord, rétorquèrent les râleurs. Mais il faut des années pour construire ces barrages, et pendant ce temps, le peuple aura le temps de crever. Pourquoi voulez-vous qu'il crève ? Demanda le ministre des Finances. Le peuple a tenu bon jusqu'à présent.
Haïlé Sélassié voulait prouver au monde que l'Empire était prospère. Il était hors de question de partir. Au contraire, après quelques brefs accès de dépression sénile, l'empereur sembla ressusciter, se ranimer, reprendre de la vigueur. Son visage de vieillard exprimait même une certaine fierté d'être encore si agile, lucide et fort. Mais la princesse Ténénée, sa fille, parcourait le palais comme une furie en tarabustant sa majesté pour qu'elle procède à des arrestations et à des pendaisons. Son ineffable majesté ne quittait plus son uniforme militaire avec toutes ses décorations et son bâton de maréchal. Sa majesté venait d'avoir 82 ans. Mais les étudiants criaient à l'envi qu'en fait, Sélassié s'était jadis rajeuni, qu'il était en réalité dans sa 92e année, ce qu'ils avaient découvert dans de vieilles paperasses.
Ce jour-là, il tombait une pluie glacée et un brouillard lugubre obscurcissait l'atmosphère. Sa Majesté sortit sur le balcon du palais. À ses côtés se tenait une poignée de dignitaires trempés, abattus, déprimés, les autres ayant été arrêtés ou ayant fui de la capitale. Il n'y avait pas de foule en contrebas, seuls les domestiques et quelques soldats de la garde impériale se tenaient sur les bords d'une cour déserte. Sa Vénérable Majesté exprima sa compassion à l'égard des provinces affamées et affirma qu'elle renonçait au développement fructueux de l'Empire. Elle remercia aussi l'armée pour sa loyauté, loua ses sujets, adressa ses encouragements et souhaita bonne chance à tout son monde. Elle parlait si doucement qu'à travers le bruissement de la pluie, ses paroles étaient à peine perceptibles. Et je vis des larmes couler sur son vénérable visage.
En Éthiopie, il y avait beaucoup de céréales, mais elles furent cachées par les riches, puis mises sur le marché à un prix deux fois plus élevé. Elles devinrent donc inaccessibles aux pauvres. Des centaines de milliers d'hommes seraient morts à côté de silos bourrés de grains. Sur l'ordre de notables locaux, la police achevait des foules de squelettes. C'est cette situation de préjudice extrême, d'horreur, d'absurde et de désespoir qui servit de signal d'alarme aux officiers conspirateurs. La rébellion se répandit progressivement à toutes les divisions.
Au milieu d'une atmosphère d'abattement, d'étouffement et de sinistre tristesse, des médecins suédois, conviés par son ineffable majesté depuis fort longtemps, débarquèrent au palais pour donner des leçons de gymnastique. Imaginez-vous, mon ami, que c'est dans ce contexte de coups de sifflet, non, de coups de filet, de rafles, de chasse à l'homme, qu'il fallut se présenter à des cours de gymnastique. Telle était la volonté de Sa Majesté et du Conseil de la Couronne, qui avait naguère décidé que les courtisans devaient prendre grand soin de leur santé, profiter des bienfaits de la nature, se reposer autant que nécessaire dans le confort et l'opulence, et respirer le bon air. Sa bienveillante majesté avait d'ailleurs interdit de lésiner sur ce chapitre, répétant maintes et maintes fois que la vie de ses courtisans était le plus grand trésor de l'Empire et la plus grande valeur de la monarchie. En son temps, Sa Majesté avait même promulgué un décret qui contraignait les sujets à se soumettre à des exercices de gym. Et comme le texte de loi n'a jamais été abrogé pour cause de troubles et de désordre, la poignée de courtisans qui restait au palais fut contrainte de se présenter au cours de gymnastique pour dégourdir, fortifier, assouplir le plus grand trésor de l'Empire. Si on négligeait ces recommandations par simple distraction ou par excès de zèle, on se faisait réprimander par Sa Singulière Majesté ou par d'autres courtisans. Une fois, le groupe de courtisans réunis dans un salon pour agiter bras et jambes, les conspirateurs entrèrent et coffrèrent tout le monde. Leurs jours sont comptés et ils font de la gymnastique, ricanèrent les officiers. Ces messieurs, les officiers, ne respectaient plus aucune valeur. La cour fut nettoyée de tout son monde, sauf de son extraordinaire majesté et de son dernier valet, qui resta au service de l'empereur jusqu'au dernier jour. La population avait tendance, de manière inconsciente, à prêter à son chef des qualités divines. Le plus haut personnage de l'État était toujours le meilleur. Il était sage et noble, immaculé et bienveillant. L'empereur n'avait plus rien à perdre et il pouvait encore se défendre.
se défendre par sa vulnérabilité, par son inaction, par la seule vertu d'avoir réussi à rester au palais, de s'y être éternisé, en errant dans le palais désert, en compagnie de son valet de chambre. Un jour, le valet trouva l'empereur dans un salon. Il regardait par une fenêtre et vit alors un troupeau de vaches en train de paître dans les jardins impériaux. La ville avait été informée de la fermeture imminente du palais et les vachers avaient conduit leurs bêtes dans le parc. On avait dû leur dire que l'empereur avait perdu tout pouvoir et qu'on pouvait profiter de ses biens, du moins de l'herbe du palais, devenue propriété du peuple. L'empereur était plongé dans une profonde méditation. Ce sont les hindous qui l'ont initié à cette technique. Ils le faisaient tenir debout, sur une jambe, avec interdiction de respirer et d'ouvrir les yeux. Immobile, il méditait pendant des heures entières dans son cabinet. Il méditait ou il somnolait, on ne sait pas. Les matinées étaient brumeuses, les nuits glacé. Et les Sélassiés gardaient, on l'a dit, toujours son uniforme, par-dessus lequel il avait jeté une chaude cape en laine. Il s'asseyait à son immense bureau où trônait une dizaine de téléphones. Plus aucun ne sonnait.
Les officiers exigèrent que sa généreuse majesté rendent tout l'argent qu'elle possédait et qu'elle avait, selon eux, détourné pendant une cinquantaine d'années en le plaçant dans des banques à l'étranger, en le cachant dans le palais ou chez des dignitaires. « Il faut absolument tout rendre, disait-il, car cet argent est la propriété du peuple. Il provient de son sang et de sa sueur. »«
De quel argent voulez-vous parler? Nous n'avons plus un sou. Tout a été investi dans le développement pour que nous puissions rattraper notre retard et prendre la tête du peloton. D'ailleurs, le développement a été officiellement reconnu comme un immense succès.
De quel développement voulez-vous parler, rétorquaient les officiers. C'est de la pure démagogie, un rideau de fumée qui a permis à la cour de s'enrichir. Ils se redressèrent alors soudain, soulevèrent un immense tapis persan et mirent à jour des liasses de dollars serrés les unes contre les autres, à tel point que le plancher en était vert.
Après le départ des officiers, sa noble majesté emmena son dernier valet dans son cabinet et lui demanda de cacher l'argent que sa majesté gardait dans les tiroirs de son bureau, entre les pages de ses livres. Il faut savoir que Sa Majesté, en tant que descendant officiel du roi Salomon, possédait une immense collection de Bibles traduites dans toutes les langues du monde. C'est là que l'argent était caché. Mais les officiers n'étaient pas nés de la dernière pluie. Le lendemain, ils ouvrirent les bibliothèques, secouèrent vigoureusement toutes les Bibles, d'où s'échappèrent des liasses de dollars. « Tout cela n'est rien !» poursuivirent les officiers. « Il faut rendre l'argent, il faut rendre l'intégralité de l'argent, notamment celui qui a été placé dans les banques suisses, dans les banques anglaises, sur un compte privé de Sa Majesté et qui est estimé à 1,5 milliard de dollars, si ce n'est davantage. Des petits sous bien jolis !» Ils continuèrent de discutailler jusqu'au moment où Sa Majesté sombra dans une profonde méditation, les yeux fermés, la respiration coupée. La populace
arpentait les rues en maudissant Sa Majesté, en la traitant de voleuse, en jurant de la pendre à un arbre. Le dernier valet essayait de fermer toutes les fenêtres. Sa vénérable majesté sombra dans le sommeil. Son valet le laissa et regagna sa chambre pour écouter la radio. Dernier lien entre le palais et l'Empire. La nuit du 11 au 12 septembre 1974, le valet et son maître, deux vieillards dans un palais abandonné, ne fermèrent pas l'œil, car c'était le réveillon du nouvel an, selon le calendrier éthiopien. À cette occasion, le valet disposa des chandeliers dans tout le palais et il les alluma. Au petit matin, ils entendirent un vrombissement de moteur et le raclement de chenilles sur l'asphalte. Trois officiers entrèrent dans le cabinet de l'empereur. L'un d'eux lut l'acte de déposition du trône. Haïlé Sélassié Ier a abusé de son autorité, de sa fonction et de l'honneur du trône à des fins personnelles. En conséquence, le pays s'est retrouvé dans un état de pauvreté et de délabrement extrême. Le monarque n'est plus en état d'assumer ses responsabilités. Aussi, sa puissance est destituée. Ce jour, le pouvoir étant assuré par le comité militaire provisoire, l'Éthiopie avant tout. Debout, l'empereur écouta avec attention le message lu par l'officier. Puis il exprima à tous ses remerciements, affirma que l'armée ne l'avait jamais déçu et ajouta que si la révolution est bonne pour le peuple, alors il était pour la révolution et ne s'opposerait pas à sa déposition. Une Volkswagen verte était garée devant les grilles. Assis au volant, un officier ouvrit la portière tout en rabattant le siège avant, afin que l'empereur puisse entrer dans la voiture.
C'est une plaisanterie. Je ne vais tout de même pas voyager là-dedans.
Ce fut sa seule manifestation de protestation. Il se tut et s'installa au fond du véhicule qui démarra, précédé de deux jeeps bourrés de soldats. Il n'était pas encore 7 heures du matin. Le convoi circulait dans des rues désertes. D'un geste de la main, l'empereur saluait les rares passants qu'il rencontrait sur leur chemin. Le valet fit ses bagages, son baluchon sur l'épaule. Il arrêta un taxi et se fit conduire chez lui.
Addis Abeba, 7 février 1975. Enfermé depuis 4 mois dans les appartements du vieux palais de Ménélik, Haïlé Sélassié finit sa vie au milieu de ses soldats. Ceux-ci, selon des témoignages récents, s'incline toujours devant le Négus, comme au plus beau jour de l'Empire. Le roi des rois croit toujours qu'il est empereur d'Éthiopie. Le Négus se maintient en bonne santé. Il lit beaucoup, toujours sans lunettes, et donne des conseils aux soldats qui le servent. Addis Abeba, 28 août 1975. L'ex-empereur d'Éthiopie est mort hier, d'un accident vasculaire.
Et... Selassie is the child.
On ne sait pas exactement comment est mort le Négus, le lion de Judée. On raconte que l'empereur fut étouffé dans son sommeil, sous un oreiller imbibé d'éther ou peut-être étranglé. Le tout sur ordre d'un colonel cruel qu'on ne tardera guère à surnommer le Négus Rouge, instaurant une dictature militaire marxiste dont les mots-clés seront terreur, famine et répression, et dont les victimes se compteront en centaines de milliers. On ne sait pas vraiment non plus ce qui, parmi toutes les histoires que vous venez d'entendre, tirées du livre Le Négus, présenté comme vrai par son auteur, Richard Kapuscinski, récolté par ses soins, pour ainsi dire, de première main, non tranchée, lesquelles sont d'authentiques témoignages sur les excès du pouvoir impérial. Grâce au Négus et au livre suivant, consacré au Shah d'Iran, les reportages de Kapuscinski en Afrique, en Amérique latine ou en URSS seront traduits dans une quarantaine de pays et son nom sera cité à plusieurs reprises parmi les possibles lauréats du prix Nobel de littérature, sacré pape ou Négus à son tour, d'un journalisme littéraire écrit à la première personne. En 2007, une biographie à succès du reporter polonais, traduite en français sous le titre « Le vrai » et « Le plus que vrai », déclencha un scandale international en pointant une probable falsification des faits, notamment en ce qui concerne le Négus, ce petit livre jaune, qu'il convient sans doute mieux de lire comme une extraordinaire satire inspirée de faits réels. Ce qui est vrai, en revanche, ce qui est sûr et certain, ce que personne ne pourra jamais nier ni contredire, c'est que la musique originale de cette Nova Bookbox exceptionnelle a été composée par Samuel Hirsch et Fabien Girard, que je vous demande d'applaudir avec les honneurs dus à leur rang. Ils n'étaient pas avec nous cet après-midi, mais vous les avez entendus malgré tout. Au saxophone et à la flûte, Michael Havard. Aux percussions, Alexis Untonji. J'ajoute que Samuel Hirsch et Fabien Girard seront en concert avec leurs compères du groupe Arad Kilo et un drôle d'Olibrius déclamant les lettres envoyées par Rimbaud depuis l'Abyssinie. Ce sera le 13 mars à la 360 Paris Music Factory, cette nouvelle salle de spectacle montée du côté de Barbès. Cette émission a été réalisée par Master Sullivan Clameau. Avec l'aide souveraine de Benoît Thuot. Ont prêté leur voix pour ressusciter la cour de l'empereur. Alexis Breton, Sébastien Cario, Isadora Darcial, Jean Morel, Christian Enzonta, Thierry Paret, Benoît Thuot, Bintou Saint-Poré et Clémentine Spiller. Remerciements impériaux au Festival Longueur d'Onde, aux Ateliers des Capucins à Aurélie Sfèze, ainsi qu'au public de Brest pour leur accueil, pour leur écoute. Que puis-je ajouter? Une chanson? De la cour du roi, je suis le lion. De la cour du roi, je suis le lion de Jules. Si j'eus été juré, je n'aurais pas tranché la tête des traîtres qui complotent contre mon maître. De la cour du roi, je suis le lion. Si j'y ses adversaires, si j'y j'en rugis, j'ai entendu des délations, j'ai assisté à des libations. J'attends toujours ma libération. De la cour du roi, je suis le lion.
Nova Book Box, l'hôtel du livre-échange.